Janvier. Le suppléant, mercredi 4. Mon père avait raison. M. Perbonne y était de mauvaise humeur parce qu'il était malade. Depuis 3 jours, en effet, le suppléant vient à sa place. Ce suppléant, petit et imberbe, qui paraît tout jeune. Il est arrivé ce matin une sotte chose à son sujet. Déjà le premier et le second jour, les élèves avaient fait du bruit dans la classe parce que le suppléant a trop de patience et ne fait que dire « Taisez-vous, je vous prie, sans punir ». Mais ce matin, on a dépassé la mesure. On faisait un vacarme tel qu'on ne l'entendait plus. Il priait, suppliait, c'était peine perdue. 2 fois, le directeur apparut sur le seuil de la porte, mais lui parti, la rumeur a repris comme dans un marché. C'était en vain que Garonne et Desrosses y se retournaient et faisaient signe de se taire à leurs camarades en leur disant d'être sages et que c'était honteux. Personne n'y faisait attention. Il n'y avait que Stardi qui se tenait tranquille, les coudes appuyés au pupitre, les poings aux tempes, pensant peut-être à sa fameuse bibliothèque, et Garoffi, celui des timbres-poste, qui était occupé à faire la liste des souscripteurs pour sa loterie à 2 centimes pour un encrier de poche. Les autres criaient et riaient, battaient leurs pupitres de leurs manches de plumes et se lançaient des boulettes de papier au moyen des élastiques enlevés à leur jarretière. Le suppléant prenait par le bras tantôt l'un, tantôt l'autre, les secouait, en mettait un contre le mur. Le tout pour rien. Il ne savait plus à quel saint se vouer. Il disait « Mais pourquoi agissez-vous ainsi? Voulez-vous me faire avoir des reproches ?» Il frappait du poing sur son bureau en criant d'un ton de menace et de prière. « Silence ! Silence ! Silence !» Cela faisait peine de l'entendre. Pourtant, le vacarme augmentait toujours. Franti lui lança une flèche de papier, les uns miaulaient, d'autres jetaient leurs casquettes en l'air. C'était un tumulte indescriptible. Tout à coup, le portier entra en disant « Monsieur, le directeur vous demande ». Le suppléant se leva avec un geste désespéré et sortit en hâte. Mais Garonne se leva, le visage bouleversé, les poings serrés, et cria d'une voix tremblante de colère. « Finissez ! Vous êtes bête ! Vous abusez de la bonté du suppléant ! S'il vous broyait les bras, vous seriez plat comme des punaises, tas de lâches ! Le premier qui fait encore une grimace, je l'attends à la sortie, et je lui casse les dents, je le jure, fut-il sous les yeux de son père ! » On se tut. Ah, qu'il était beau à voir ainsi Garonne, les yeux pleins de flammes. On eût dit un lionceau furieux. Il regarda les plus hardis les uns après les autres, et tous baissèrent la tête. Quand le suppléant rentra, les yeux rouges, on n'entendait plus un souffle. Il fut d'abord étonné. Puis, voyant Garonne encore tout frémissant, il comprit, et lui dit avec un accent attendri, comme s'il eût parlé à un frère, « Je te remercie, Garonne. » La bibliothèque de Stardi. Je suis allé chez Stardi, qui demeure en face de l'école, et j'ai eu un vrai sentiment d'envie en voyant sa bibliothèque. Il n'est pas riche, Stardi, il ne peut pas acheter beaucoup de livres, mais il conserve avec grand soin ses livres de classe, et tout l'argent qu'on lui donne, il le garde pour le dépenser chez le libraire. De cette façon, il possède une petite bibliothèque, et lorsque son père s'est aperçu qu'il avait la passion des livres, il lui a acheté une jolie étagère en noyer avec des rideaux verts et lui a fait relier tous les volumes de la couleur qui lui plaisait. Lorsqu'on tire les rideaux, on voit apparaître 3 rangées de volumes de toutes les couleurs, bien en ordre, bien brillants, avec les titres écrits en lettres d'or sur le dos. Des livres d'histoires enfantines, de voyages, de poésie, presque tous illustrés. Stardi sait fort bien grouper les couleurs de ses volumes. Les blancs près des rouges, les jaunes près des noirs, les bleus près des blancs, de façon qu'ils font de loin le plus joli effet. Il se plaît de temps à autre à varier la combinaison des nuances. Il a inscrit tous ses livres dans un catalogue, ni plus ni moins qu'un bibliophile. Il s'occupe constamment de ses livres, les époussette, les feuillette, examine les reliures. Il faut voir avec quel soin il les ouvre, de ses mains courtes et grosses, en soufflant sur les pages. On dirait que ses livres sont tout neufs, moi qui ai abîmé tous les miens. Pour lui, chaque livre qu'il achète lui procure le plaisir de le caresser, de le ranger parmi les autres, puis de le prendre encore pour le regarder de tous les côtés et de l'enfermer comme un trésor. Pendant une heure, Tardy ne m'a pas fait voir autre chose. Il a mal aux yeux à force d'avoir lu. À un certain moment, son père traversa la pièce où nous étions et lui passa deux ou trois fois la main sur la nuque en disant de sa grosse voix « Que dites-vous de cette tête de bronze ? C'est une grosse tête qui arrivera à quelque chose, je vous en réponds. » Et Tardy fermait à demi les yeux sous ses rudes caresses paternelles. Je ne sais pourquoi, je n'osais plus plaisanter avec lui, je ne pouvais croire qu'il eût seulement un an de plus que moi. Quand il me dit « au revoir » sur le seuil de la porte avec son air bourru, je faillis lui dire « votre serviteur », comme je l'aurais dit à un homme. J'en fis part à mon père en rentrant. « Je n'y comprends rien, dis-je. Tardy n'est pas intelligent, il n'est pas bien élevé, il a une figure cocasse, et cependant, il m'en impose. » Mon père répondit « c'est parce qu'il a du caractère. » Et j'ajoutai « pendant une heure que j'ai passé près de lui, il n'a pas prononcé 50 mots, il ne m'a pas montré un jouet, il n'a pas ri une fois. Et cependant, j'étais content d'être avec lui. » Mon père reprit « c'est parce que tu l'estimes. » Le fils du forgeron. J'estime aussi précoce, et c'est peu dire. Précoce, le fils du forgeron, un petit palot qui a de bons yeux tristes et un air effrayé, si timide qu'il dit « excusez-moi » à tout le monde, et qui, bien que toujours souffrant, étudie cependant fort et ferme. Son père rentre toujours gris à la maison, le bat pour un rien et jette en l'air ses livres et ses cahiers d'un revers de main. Le pauvre petit arrive à l'école avec des bleus sur le visage, quelquefois avec les yeux rouges et gonflés à force d'avoir pleuré. Mais jamais, au grand jamais, on ne peut lui faire avouer que c'est son père qui l'a battu. « Ce n'est cependant pas vous qui avez brûlé cette page de votre cahier !» dit le professeur en lui montrant son devoir tout brûlé. « Si, c'est moi !» répondit-il d'une voix tremblante. Nous savons bien que c'est son père. Étant gris, il a heurté la table sur laquelle Précoce y travaillait, et la lampe s'est renversée, brûlant le cahier du pauvre enfant. Précoce y habite une mansarde dans notre maison, au fond de la cour, et la portière raconte tout cela à nos bonnes, qui le redisent à maman. Un jour, ma sœur Sylvia a entendu Précoce y criant en dégringolant de l'escalier où son père l'avait lancé d'un coup de pied parce qu'il avait demandé quelques sous pour acheter une grammaire. Le père Précoce y boit, ne travaille point et la famille meurt de faim. Combien de fois le pauvre petit est-il venu à l'école le ventre vide et a mangé dans un coin un petit pain donné par Garonne ou une pomme glissée à la dérobée par l'institutrice à la plume rouge dans la classe de laquelle il a été en première élémentaire. Pas de danger que Précoce y dise « J'ai faim, mon père ne me donne pas à manger. » Quelquefois, celui-ci vient le chercher en passant devant l'école. Pâle, chancelant sur ses jambes, les cheveux en désordre et la casquette posée de côté. Le pauvre enfant est troublé quand il aperçoit dans la rue, et pourtant, il court à lui en souriant. Mais le père n'a pas l'air de le voir et pense à autre chose. Pauvre Précoce, il recoue ses cahiers déchirés et prie ses voisins de banc de lui prêter le livre qui lui manque pour étudier. Il attache sa chemise avec des épingles et c'est pitié de le voir faire la gymnastique avec ses gros souliers dans lesquels ses pieds dansent, son pantalon tout en loques et sa jaquette trop longue dont les manches sont retroussées jusqu'au coude. Et il étudie, il s'efforce d'apprendre. Il serait un des premiers s'il pouvait travailler tranquillement chez lui. Ce matin, il est venu à l'école avec la marque d'une égratignure sur les joues et ses camarades lui dirent « C'est ton père qui t'a fait ça. Cette fois, tu ne peux pas le nier. Dis-le au directeur pour qu'on l'appelle chez le commissaire. » Mais Précoce, il tout rouge « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mon père ne me bat jamais » s'écria-t-il d'une voix tremblante d'indignation. Pourtant, pendant la leçon, les larmes coulaient sur son pupitre et quand quelqu'un le regardait, il s'efforçait de lui sourire pour ne pas avoir l'air de souffrir. Pauvre Précoce. Demain, Derossi, Coretti et Nelly viennent à la maison. Je veux lui dire de venir aussi. Il goûtera avec nous, je lui donnerai des livres, je mettrai la maison sans dessus dessous pour l'amuser et je remplirai ses poches de fruits. Que je voie une fois ce pauvre précoce si content et de bonne humeur, lui si bon et si courageux. Une belle visite. Jeudi 12. Voici un jeudi qui a été pour moi un des plus beaux de l'année. À 2 heures précises, arrivèrent De Rossi, Coretti et Nelly le petit bossu. Quant à Precossi, son père ne l'avait point laissé venir. De Rossi et Coretti riaient de bon cœur parce qu'ils avaient rencontré dans la rue Crossi, le fils de la fruitière, celui qui a le bras inerte et les cheveux rouges, portant sous le bras un énorme chou qu'il allait vendre et, avec les dessous du chou, il devait ensuite s'acheter une plume. Il était tout content, le pauvre petit Crossi, parce que son père a écrit d'Amérique qu'on l'attendit d'un jour à l'autre. Oh, les bonnes heures passées avec mes chers camarades! De Rossi et Coretti sont les deux plus gais de la classe. Mon père en a été charmé. Coretti, avec son jersey loutre et son bonnet en peau de chat, faisait le diable à quatre. Le matin, de bonne heure, il avait déchargé une demi-voiture de bois, et cependant, il galopa dans toute la maison, observant tout et parlant sans cesse, leste et allègre comme un écureuil. Il trouva le moyen, en passant dans la cuisine, de demander à la cuisinière ce que nous payons les 10 kilos de bois, parce que son père les vend 45 centimes. Vraiment, bien qu'il soit né et qu'il ait grandi dans un magasin de bois, Coretti a de la noblesse dans le cœur. De Rossi nous a bien amusés également. Il sait sa géographie comme un professeur. Il fermait les yeux en disant « Tenez, je vois toute l'Italie, les Apennins qui s'allongent jusqu'à la mer Ionienne, les fleuves qui coulent ici et là, les villes blanches, les golfes, les anses bleues, les îles vertes, et il disait les noms par ordre de toute vitesse, sans en omettre un seul, comme s'il les eût lus sur la carte. » Il était vraiment charmant, ce De Rossi, avec sa tête haute, toute blonde et frisée, ses beaux yeux intelligents. Nous l'admirions tous. En moins d'une heure, il avait appris par cœur presque 3 pages de vers qu'il doit réciter après-demain pour l'anniversaire des funérailles du roi Victor Emmanuel. Nelly aussi le regardait émerveillée. Tourmentant entre ses doigts l'ourlet de son tablier noir, il souriait, et ses yeux clairs et mélancoliques semblaient éclairés par ce sourire. Quant à moi, cette visite me fit grand plaisir. Elle me laissa comme des étincelles dans l'esprit et dans le cœur. Il me plut également de voir le petit Nelly s'en aller entre mes 2 camarades qui lui donnaient le bras, eux grands et forts, lui petit et délicat, riant comme jamais je ne l'ai vu rire. En rentrant dans la salle à manger, je m'aperçus que le tableau représentant Rigoletto, le bouffon bossu, avait disparu. Mon père l'avait enlevé avant l'arrivée des enfants pour que Nelly ne le vît point. Franti chassé de l'école. Samedi 21. Un seul d'entre nous était capable de rire lorsque De Rossi réciterait les funérailles du roi, c'était Franti. « Je le déteste, ce garçon, c'est un mauvais cœur. Quand un père vient à l'école pour faire réprimander son fils, il en est ravi. Quand on pleure, il rit. Il tremble devant Garonne et bat le petit maçon qui ne peut se défendre. Il tourmente Crossi qui a le bras inerte, se moque de Precossi que tout le monde respecte et tourne en ridicule jusqu'à Robetti, celui de la seconde classe, qui marche avec des béquilles pour avoir sauvé un enfant. » Il provoque les plus faibles et, quand il se bat, il s'anime, devient féroce et fait mal à ses adversaires. Il y a quelque chose qui répugne sur ce front bas, dans ce regard trouble qu'il tient caché sous la visière de sa casquette de toile cirée. Franti ne craint rien, rit au nez du professeur, vole quand il le peut, nie avec une audace incroyable et est toujours en querelle avec quelqu'un. Il porte en classe de grandes épingles pour piquer ses voisins, arrache les boutons de sa jaquette et les arrache aux autres. Ses cahiers, ses livres et ses carnets sont tous pleins de pâtés et déchirés, sales, mal soignés. Sa règle est dentelée, sa plume mordillée, ses ongles rongés, ses habits pleins d'accrocs qu'il attrape dans des rixes. On dit que sa mère est malade des chagrins qu'il lui cause et que son père l'a chassé 3 fois de la maison. Sa mère vient de temps à autre demander comment se comporte son fils et elle s'en va toujours en pleurant. Franti déteste le professeur, ses compagnons et l'école. Le maître fait parfois semblant de ne pas entendre ses grossièretés et il en abuse. M. Perboni a essayé de le prendre par la douceur et Franti s'en est moqué. Il lui a fait alors de sévères menaces. Franti se couvrait le visage de ses mains comme s'il pleurait et il riait au contraire. Il fut renvoyé provisoirement et pendant 3 jours il ne vint pas à l'école. Il y revint plus insolent que jamais. Un jour, Derossi lui dit « Finis donc, tu en fais trop, professeur !» Franti, pour toute réponse, le menaça de lui planter un clou dans le ventre. Ce matin, enfin, il s'est fait chasser comme un chien. Tandis que le maître donnait à Garonne et le brouillon du petit Ambourssarde le récit mensuel de janvier à copier, Franti jeta sur le parquet un pétard qui éclata, faisant résonner les murs de la classe comme d'un coup de fusil. Tous les élèves en sursautèrent. Le maître se leva en criant « À la porte, Franti !» Il répondit en riant « Ce n'est pas moi !»« Va-t'en !» répéta M. Perboni. « Je ne bougerai pas !» À cette réponse insolente, M. Perboni perdit son sang-froid. Il s'élança sur Franti, le prit par le bras et le souleva du banc. Le garnement se débattait en criant, grinçait des dents. Le professeur dut le traîner dehors et de force jusque chez le directeur. Quand M. Perboni revint seul et s'assit à son bureau, la tête dans ses mains, essoufflé et triste, son expression navrée faisait mal à voir. « Depuis 30 ans que je fais des classes, pareille chose ne m'est arrivée, » dit-il en soupirant. Personne ne bougeait. Les mains du maître étaient toutes tremblantes et la ride qui traverse son front était si profonde qu'elle semblait une blessure. Pauvre professeur, tout le monde le plaignait. Derossi se leva et dit à M. Perboni « Ne vous affligez pas, monsieur, tous ici nous vous aimons bien. » À ces douces paroles, le professeur parut se rasséréner et murmura « Reprenons la leçon, mes enfants. » Le petit Ambourssarde. Récit mensuel. Le premier jour de la bataille de Custoza, le 21 juillet 1848, une 60aine de soldats faisant partie d'un régiment d'infanterie avaient été envoyés sur une hauteur occuper une maison isolée. Ils se trouvèrent assaillis à l'improviste par 2 compagnies de soldats autrichiens. Ceux-ci faisaient une fusillade si bien nourrie que les fantassins eurent à peine le temps de se réfugier dans la maison et de barricader précipitamment les portes après avoir laissé 2 morts et 2 blessés dans les champs. Les portes closes, les soldats accoururent aux fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage et ils commencèrent à tirer sur les assaillants. Ces derniers, en s'avançant peu à peu en demi-cercle, répondaient vigoureusement. Ces 60 soldats étaient commandés par 2 officiers subalternes et 1 capitaine, un vieux, grand, sec, à la barbe et aux cheveux blancs. Avec eux se trouvait un Ambourssarde, un garçon qui avait tout au plus 14 ans et n'en paraissait pas plus de 12, petit, au teint olivâtre, aux yeux noirs et profonds. Le capitaine dirigeait la défense d'une chambre du premier étage, lançant ses ordres comme des coups de pistolet, et sur son visage de fer ne se lisait aucune émotion. Le petit tambour, un peu pâle mais solide sur ses jambes, était monté sur une table d'où il voyait par la fenêtre, à travers la fumée, les lignes blanches des Autrichiens qui s'avançaient lentement dans les champs. La maison était située sur la crête d'une pente rapide et sur laquelle était percée une unique petite fenêtre sur le toit. Voilà pourquoi les Autrichiens ne menaçaient pas la maison de ce côté, la pente était libre. Le feu ne battait que la façade et les 2 flancs de la maison. Mais c'était un feu d'enfer, une grêle de balles qui criblait les murs et brisait les tuiles. À l'intérieur, les balles fracassaient les meubles, les corniches, les plafonds, les portes, jetant dans l'air des éclats de bois, des nuages de plâtre, des tronçons de vaisselle et de vitres. Elles sifflaient, rebondissaient et brisaient tout sur leur passage avec un bruit assourdissant. De temps en temps, un des soldats qui tirait par la fenêtre s'affaissait sur le plancher et on le traînait dans un coin. Quelques-uns allaient en chancelant de chambre en chambre, serrant leurs blessures d'une main crispée. Dans la cuisine, il y avait déjà un mort, le front ouvert. Le demi-cercle des ennemis se resserrèrent visiblement. À un certain moment, on vit le capitaine, jusque-là impassible, faire un geste d'inquiétude et sortir précipitamment de la chambre, suivi par un sergent. 3 minutes après, le sergent accourut et appela le petit tambour. L'enfant le suivit en courant sur l'escalier et entra après lui dans une mansarde nue. Le capitaine était là, occupé à écrire avec un crayon sur une feuille de papier qu'il appuyait à la vitre de la petite fenêtre. À ses pieds, sur le plancher, il y avait une corde d'appui. Le capitaine plia la feuille et dit, en fixant sur les yeux du garçon ces regards froids devant lesquels tous les soldats tremblaient, « Tambour !» Le tambour mit la main à sa visière. « Es-tu courageux ?» Les yeux de l'enfant eurent un éclair. « Oui, capitaine » répondit-il. « Regarde là-bas » dit le capitaine en le poussant vers la lucarne. « Dans la plaine, près des maisons de Villafranca, où reluisent des baïonnettes, il y a notre régiment. Prends ce billet, tu descendras de la lucarne à l'aide de cette corde. Glisse le long de la pente, traverse les champs, cours au régiment et donne ce billet au premier officier que tu rencontreras. Enlève ton ceinturon et ta giberne. » Le tambour enleva son ceinturon et sa giberne et glissa le billet dans sa poche. Le sergent jeta la corde hors de la fenêtre tout en tenant un des bouts de ses deux mains, tandis que le capitaine aidait l'enfant à passer par la fenêtre, le dos tourné vers la campagne. « Écoute, tambour, dit-il, le salut du détachement dépend de ton courage et de tes jambes. »« Comptez sur moi, capitaine, répondit l'enfant en s'accrochant à la corde hors de la lucarne. Courbe-toi en descendant, fit encore le capitaine, aidant le sergent à tenir la corde au bout de laquelle l'enfant était suspendu. N'ayez crainte! Dieu t'aide! En quelques secondes, le petit tambour fut à terre. Le sergent tira la corde et disparut. Le capitaine se pencha à la lucarne et vit l'enfant qui descendait la pente en courant. Il espérait déjà que le petit tambour avait pu passer inaperçu quand 5 ou 6 petits nuages de poussière qui se soulevèrent de terre devant et derrière le fuyard l'avertirent qu'il avait été vu des Autrichiens. Ils tiraient sur lui du sommet de la colline. Ces petits nuages provenaient de la terre projetée en l'air par les balles. Le petit tambour continuait à courir comme un lièvre. Tout à coup, il s'affaissa. « Tué !» rugit le capitaine en se mordant le poing. Mais il avait à peine poussé cette exclamation qu'il vit le petit tambour se relever. « Ah ! Une chute seulement !» se dit-il, et il respira. Le petit tambour, en effet, s'était mis à courir de nouveau, mais il boitait. « Il s'est foulé le pied !» pensa le capitaine. Quelques petits nuages de poussière se levèrent çà et là autour de l'enfant, de plus en plus loin. Il était sauvé. Le capitaine jeta un cri de triomphe et continua cependant à le suivre des yeux, tout frémissant, parce que les minutes étaient comptées. Si le tambour n'arrivait pas au régiment dans le plus court délai, avec le billet qui demandait un secours immédiat, tous ses soldats succomberaient, ou bien ils devraient se rendre prisonniers avec eux. Le garçon courait, rapide comme un trait, puis, ralentissant le pas en boitant, reprenait encore sa course, mais toujours plus péniblement, et de temps à autre, il trébuchait et s'arrêtait. « Un ricochet de balle l'a peut-être atteint, » se disait le capitaine, et il suivait tous ses mouvements, haletant, l'excitant, lui parlant, comme si l'enfant avait pu l'entendre, mesurant sans cesse d'un œil ardent l'espace qui existait entre son messager et la lueur des baïonnettes qu'on voyait là-bas au milieu des champs de froment dorés par le soleil. Pendant ce temps, le capitaine entendait le sifflement et le fracas des balles dans les chambres sises aux étages inférieurs, les ordres impérieux, les cris de rage des officiers et des sergents, les plaintes lamentables des blessés, le bruit des meubles fracassés et des tentures déchirées. « Va, courage !» criait le capitaine, suivant des yeux le petit tambour. « Cours, mon enfant ! Oh, il s'arrête ! Malédiction ! Non, il reprend sa course !» Un officier vint, anxieux, dire au capitaine que l'ennemi, sans cesser le feu, arborait un drapeau blanc pour intimer l'ordre de se rendre. « Qu'on ne lui réponde pas !» fit-il sans quitter des yeux le tambour qui arrivait enfin dans la plaine. Il ne courait plus, il se traînait avec effort. « Mais va, mais cours !» disait le capitaine en serrant les poings et les dents. « Meurs s'il le faut, mais arrive, scélérat !» Il jeta à cet instant une horrible imprécation. « Ah, le lâche infâme ! Il s'est assis !» L'enfant, en effet, dont il avait toujours aperçu la tête apparaître au-dessus des épis de froment, avait tout à coup disparu comme s'il était tombé. Après un instant, la tête de l'enfant apparut de nouveau, puis se perdit derrière les haies. Le capitaine ne voyait plus le tambour. Il descendit alors impétueusement. Les balles faisaient rage, les chambres étaient encombrées de blessés, quelques-uns d'entre eux se roulaient sur eux-mêmes, se tordant dans la souffrance, s'accrochant aux meubles avec désespoir. Les tentures et le parquet étaient couverts de sang. Des cadavres gisaient au travers des portes. Le lieutenant avait le bras droit brisé par une balle, la fumée et la poussière enveloppaient ce triste tableau. « Courage !» cria le capitaine. « Restez à votre poste. Il arrive du secours. Encore un peu de courage !» Les Autrichiens s'étaient approchés davantage. On voyait, à travers la fumée, leurs visages décomposés. On entendait, entre le bruit de la fusillade, leurs cris sauvages qui insultaient les assiégés, leur intimant de se rendre, les menaçant de les tuer. Quelques soldats, effrayés, se retirèrent des fenêtres. Les sergents les poussaient de nouveau en avant. Mais le feu des assiégés redoublait. Le découragement apparut sur tous les visages. On ne pouvait plus se défendre. À un moment donné, les coups des Autrichiens se ralentirent et une voix tonnante cria, d'abord en allemand puis en italien, « Rendez-vous !»« Non !» hurla d'une fenêtre le capitaine. Et le feu recommença furieux des deux côtés. De nouveaux soldats tombèrent. Déjà plus d'une fenêtre était sans défenseur. Le moment fatal était imminent. Le capitaine, d'une voix serrée, gronda entre ses dents. « Ils ne viennent pas ! Ils ne viennent pas !» Et il allait, ici et là, furieux, tordant son sabre d'une main convulsive, résolu à mourir, lorsqu'un sergent descendit de la mansarde, criant à tue-tête « Ils arrivent ! Ils arrivent !» répondit le capitaine avec un cri joyeux. Là-dessus, tous, soldats, blessés, sergents, officiers, s'élancèrent aux fenêtres et le combat reprit de plus belle. Peu après, on remarqua comme une hésitation et un commencement de désordre parmi les ennemis. Aussitôt, le capitaine ramassa un drapeau dans une des salles du rez-de-chaussée afin d'effectuer une sortie à la baïonnette. Puis il courut au premier étage. Il y était à peine arrivé qu'on entendit des détonations précipitées accompagnées d'un « hurrah » formidable et des fenêtres, on put voir arriver à travers la fumée les chapeaux à deux cornes des carabiniers italiens, un escadron lancé ventre à terre et un éclair fulminant de lames blanches s'abattant sur les têtes, sur les épaules, sur le dos des ennemis. Le drapeau fit irruption hors de la porte avec les baïonnettes baissées. Les ennemis vacillèrent, s'éparpillèrent et s'enfuirent. Le terrain fut libre, la maison délivrée. Peu après, deux bataillons d'infanterie italienne et deux canons occupaient la colline. Le capitaine et les soldats valides qui lui restaient se joignirent à leur régiment et combattirent encore. Lui fut légèrement blessé à la main gauche par une balle perdue dans le dernier assaut. La journée finit par la victoire des Italiens. Mais le jour suivant, le combat ayant continué, les nôtres furent écrasés, malgré leur valeureuse résistance, par le nombre supérieur des Autrichiens, et le matin du 26, il dut reprendre tristement le chemin de la retraite vers le Mincio. Le capitaine, quoique blessé, fit la route à pied avec ses soldats exténués et silencieux. Il arriva vers la fin du jour à Goito sur le Mincio, où il se mit aussitôt à la recherche de son lieutenant que les ambulances avaient recueilli car il avait un bras cassé. Il devait être arrivé à Goito avant le capitaine, à qui l'on indiqua une église. Un hôpital avait été installé à la hâte. L'église était pleine de blessés, étendus sur des lits et des matelas disposés en deux files. Deux médecins et des infirmiers allaient et venaient, essoufflées, l'on entendait des cris étouffés et des gémissements s'échapper de toutes ces bouches souffrantes. À peine entré, le capitaine s'arrêta et chercha des yeux son lieutenant. Il s'entendit appeler par une voix faible tout près de lui. « Capitaine !» Il se retourna. C'était le petit tambour. L'enfant était couché sur un lit de camp, recouvert jusqu'à la poitrine par un vieux rideau de fil à carreaux rouge et blanc, les bras étendus sur la couverture, le visage pâle et allongé, mais avec ses yeux toujours brillants comme des diamants noirs. « Tu es ici, toi ?» demanda le capitaine étonné. « Bravo, tu as fait ton devoir !»«
J'ai fait mon possible, » répondit le petit tambour.
« Tu as été blessé ?» continua le capitaine, cherchant des yeux son officier sur les lits voisins.
« Que voulez-vous ? » dit l'enfant, auquel la fierté d'être blessé pour la première fois donnait le courage de parler au capitaine, ce qu'il n'aurait jamais osé faire sans cela. « J'ai eu beau courir vite, les Autrichiens m'ont aperçu. Je serais arrivé 20 minutes plus tôt si je n'avais pas été atteint. Heureusement que j'ai trouvé tout de suite un officier d'état-major auquel j'ai remis votre billet. » Mais cela a été dur de courir après avoir reçu la caresse des Autrichiens. Je mourais de soif, je craignais de ne pouvoir arriver, je pleurais de rage en pensant qu'à chaque minute de retard, il s'en allait quelqu'un des nôtres là-haut. Il suffit, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis content. Avec votre permission, capitaine, regardez, vous perdez du sang. »
En effet, de la paume mal bandée du capitaine couraient sur les doigts quelques gouttes vermeilles.
« Voulez-vous, capitaine, que je resserre votre bandage ? Donnez un moment. »
Le capitaine tendit la main gauche et allongea la droite pour aider l'enfant à défaire le nœud de toile. Mais à peine celui-ci se fut-il soulevé de l'oreiller qu'il pâlit et dut s'appuyer de nouveau.
« c'est bien !» dit le capitaine en le regardant et retirant sa main que le tambour voulait retenir.
« Pense à tes affaires, au lieu de penser aux autres, parce que les choses légères peuvent devenir graves. » Le tambour secoua la tête.
« Mais toi, lui dit le capitaine en le regardant attentivement, tu dois avoir perdu beaucoup de sang pour être faible à ce point. »«
Perdu beaucoup de sang, » répondit l'enfant avec un sourire.
« Autre que du sang, regardez !»
Et d'un geste rapide, il enleva la couverture. Le capitaine recula d'un pas, terrifié. Le petit tambour n'avait plus qu'une jambe. La jambe gauche avait été amputée au-dessus du genou. Le tronçon était bandé de linges ensanglantés. En ce moment passa un médecin militaire, petit et gras, en manche de chemise.
« Ah, capitaine !» lui dit-il rapidement en lui montrant le petit blessé. « Voilà un cas malheureux. Une jambe qui se serait guérie comme rien s'il ne l'avait pas forcée d'une manière folle. Il s'est déclaré une maudite inflammation et il a fallu tailler de suite. Oh, mais c'est un garçon brave, je vous l'assure. Il n'a pas pleuré, pas jeté un cri. J'étais fier qu'il fût un enfant de l'Italie tandis que je l'opérais. Celui-là est de bonne race, par Dieu !»
Et il passa toujours courant. Le capitaine fronça ses grands sourcils blancs et regarda fixement le tambour en étendant sur lui la couverture. Presque sans en avoir conscience et en regardant toujours l'enfant, il porta la main à son képi et se découvrit devant le petit mutilé.
« Capitaine ! » s'exclama l'enfant surpris. « Que faites-vous, capitaine ? C'est pour moi ?»
Alors ce vieux soldat, qui n'avait jamais dit une parole douce à un inférieur, répondit d'une voix affectueuse et tendre.
« Je ne suis qu'un capitaine. Toi, enfant, tu es un héros. »
Et il se jeta les bras ouverts sur le petit tambour qu'il embrassa à trois reprises en le serrant sur son cœur. L'amour de la patrie. Puisque le récit du petit tambour sarde t'a profondément touché, tu as dû écrire facilement ta composition de ce matin qui avait pour sujet « Pourquoi aimez-vous votre pays ?»« Pourquoi j'aime mon pays ? Ne s'est-il pas présenté aussitôt à ton esprit une foule de réponses ?»« J'aime mon pays parce que ma mère y est née, parce que le sang qui coule dans mes veines est tout à lui,
parce que sous cette terre bénie sont ensevelis tous les morts que ma mère pleure et que mon père vénère. Parce que la ville où je suis né, la langue que je parle, les livres qui m'instruisent, parce que mon frère, ma sœur, mes camarades et le grand peuple au milieu duquel je vis, la belle nature qui m'entoure et tout ce que je vois, ce que j'aime, ce que j'admire, fait partie de mon pays. Oh, tu ne peux pas encore le comprendre entièrement, ce sentiment patriotique. Tu le sentiras quand tu seras un homme. Lorsque, revenant d'un long voyage et t'appuyant un matin au bastingage d'un navire, tu apercevras à l'horizon les grandes montagnes azurées de ton pays. Tu sentiras alors l'onde impétueuse qui fera monter à tes yeux des larmes d'attendrissement et arrachera à tes lèvres un cri de joie. Tu le sentiras en pays lointain par l'impulsion de l'âme qui te poussera au milieu de la foule indifférente vers un ouvrier inconnu s'il a prononcé en passant quelques mots dans ta langue. Tu le sentiras par l'indignation douloureuse qui fera rougir ton front si tu entends injurier ton pays par un étranger. Tu le sentiras plus violent et plus fier le jour où la menace d'un peuple ennemi soulèvera une tempête de feu sur la patrie et que tu verras de toutes parts les jeunes gens brandir leurs armes, les pères embrasser leurs filles en leur disant « Courage !» et les mères disant adieu aux soldats en leur criant « Soyez vainqueurs !» Tu le sentiras comme une joie divine si tu as le bonheur de voir entrer dans la ville des régiments décimés, exténués, terribles, avec la splendeur de la victoire dans les yeux. Tu le sentiras en voyant le drapeau tricolore déchiré par les balles, suivi d'un long convoi de braves portant bien haut leurs fronts bandés et leurs écharpes d'infirmes, au milieu d'une foule enthousiaste qui les couvrira de fleurs, de bénédictions et de baisers. Tu comprendras alors, Henri, l'amour de la patrie. C'est une chose si grande et si sacrée, vois-tu, que si un jour je te voyais revenir sain et sauf d'une bataille soutenue pour elle, sain et sauf, toi qui es mon sang et mon fils bien-aimé, et que j'apprisse que pour te conserver la vie tu t'es caché, moi, ton père, qui t'accueille par un cri de joie quand tu reviens de l'école, je t'accueillerai avec un sanglot douloureux, je ne pourrai plus t'aimer, et je mourrai avec ce poignard dans le cœur. Ton père. Envie. Mercredi 25. C'est encore Derossi qui a le mieux réussi sa composition. Et Votini qui croyait être sûr d'obtenir la première médaille. J'aimerais bien Votini, quoiqu'il soit un peu fat et s'occupe trop de sa mise. Mais il me cause du dépit maintenant qu'il est devenu mon voisin de banc. Il est trop envieux de Derossi. Il voudrait lutter avec lui, il étudie, mais il ne peut égaler en aucune façon notre camarade qui le surpasse en toute chose. Votini s'en mord les doigts. Carlo Nobis envie également Derossi, mais il est si orgueilleux qu'il ne laisse point percer son envie. Votini, au contraire, l'a trahi. Il se plaint chez lui des points qu'il reçoit en moins et prétend que le professeur commet des injustices. Lorsque Derossi répond aux questions vite et bien comme toujours, Votini fait semblant de ne pas entendre ou s'efforce de rire. Mais il rit jaune. Et comme tout le monde s'est aperçu de cela, quand le maître loue Derossi, on se retourne pour regarder Votini qui fait une figure, tandis que le petit maçon, lui, fait le museau de lièvre. Ce matin, par exemple, le professeur entra dans la classe et annonça le résultat de l'examen. Derossi, 10 dixième et la première médaille. Votini se mit à éternuer très fort. Le maître le regarda et comprit. Votini, lui dit-il, ne laissez pas entrer dans votre cœur le serpent de l'envie. C'est un reptile qui ronge le cerveau et corrompt le cœur. Tous les élèves, excepté Derossi, regardèrent Votini. Il voulut répondre, il ne put et resta pétrifié, le visage tout pâle. Puis, tandis que M. Perbonne y faisait la leçon, il se mit à écrire en gros caractères sur une feuille de papier. « Je ne suis pas jaloux de ceux qui gagnent la première médaille grâce aux protections et à l'injustice. » C'était un billet que Votini voulait envoyer à Derossi. En même temps, je vis que les voisins de Derossi chuchotaient entre eux, se parlant à l'oreille, et l'un d'entre eux découpait avec son canif une grande médaille de papier sur laquelle on avait dessiné un serpent noir. Vautigny s'en aperçut. Le maître étant sorti pour un instant, les voisins de Desroches y se levèrent aussitôt pour aller présenter solennellement la médaille de papier à l'envieux. Toute la classe se préparait à voir une scène. Vautigny était déjà tout tremblant. Desroches y cria « Donnez-la-moi !»« Encore mieux !» répondirent les voisins. « C'est toi qui dois la lui offrir !» Desroches y prit la médaille et la déchira en 1000 morceaux. Le maître rentra à ce moment et reprit la leçon. Je ne quittais pas Vautigny des yeux. Il était devenu rouge de confusion. Il prit doucement la feuille qu'il avait écrite. La roula dans sa main, la mit dans sa bouche, la mâcha pendant quelques secondes, puis la cracha sous le banc. Au sortir de la classe, en passant devant Desroches, Vautigny, un peu troublé, laissa tomber son buvard. Desroches le ramassa gracieusement, le glissa dans la gibecière de Vautigny et l'aida à la boucler. L'autre n'osa même pas le regarder. La mère de Franti. Samedi 28. Vautigny est incorrigible. Hier, à la leçon d'histoire sainte, en présence du directeur, M. Perbonne y demanda à Desroches s'il savait par cœur ces deux strophes du livre de lecture. « N'importe où je tourne mes regards, Dieu immense, je te vois. » Desroches y répondit que non. Aussitôt, Vautigny s'écria avec un sourire, croyant vexer Desroches. « Je le sais !» Mais qui fut vexé ? Ce fut lui, au contraire, car il n'eut pas le loisir de réciter la poésie. La mère de Franti entra tout à coup dans la classe, ses cheveux gris et bouriffés, toutes couvertes de neige, poussant devant elle son fils, qui n'a pas reparu depuis 8 jours. Nous assistâmes à une triste scène. La pauvre femme se jeta presque aux genoux du directeur, en joignant les mains suppliantes. « Oh, monsieur le directeur » pleura-t-elle, « faites-moi la grâce d'admettre de nouveau mon fils à l'école. Depuis 3 jours, je le tiens caché à la maison, car si son père apprenait la vérité, il le tuerait. Ayez pitié, je ne sais plus que faire, je vous en supplie !» Le directeur chercha à la faire sortir, mais elle insistait toujours, pleurant et priant. « Oh, si vous saviez la peine que m'a donnée cet enfant, vous auriez pitié de moi. Faites-moi cette grâce. J'espère qu'il changera. Je ne vivrai plus bien longtemps, monsieur le directeur. J'ai la mort dans l'âme. Je voudrais tant voir mon fils changer avant de mourir, parce que... » Et la pauvre femme éclata en sanglots. « C'est mon enfant. Je l'aime. Je mourrai désespérée. Reprenez-le, monsieur le directeur, afin d'éviter un malheur, par pitié pour une malheureuse mère. » Elle se couvrit le visage dans ses mains en pleurant. Franti y tenait la tête baissée, impassible. Le directeur le regarda, fut quelques instants pensif, puis dit « Franti, allez à votre place !» La pauvre dame se calma aussitôt et commença à remercier le directeur, puis, au moment de partir et tout en s'essuyant les yeux, elle dit encore « Merci, monsieur le directeur, vous avez fait une œuvre de charité !» « Sois bon, mon fils, et vous, enfants, ayez un peu de patience. Bonjour, les enfants, merci encore, et excusez une pauvre mère, monsieur le directeur. » Et, jetant sur le seuil de la porte un coup d'œil suppliant à son fils, elle s'en alla, courbée, abattue, pâlie, et nous l'entendîmes encore tousser au bas de l'escalier. Le directeur regarda fixement Franti, et, au milieu d'un profond silence, il lui dit, avec un accent qui nous impressionna tous, « Franti, vous tuez votre mère !» Nous nous tournâmes tous vers Franti. L'infâme souriait. Espérance, dimanche 29. Il était beau, Henri, l'élan avec lequel tu t'es jeté au cou de ta mère en revenant de l'école après la classe d'histoire sainte. Le professeur t'avait dit des choses consolantes et divines. Dieu, qui nous a jetés dans les bras les uns des autres, ne nous séparera pas pour toujours. Quand je mourrai, quand ton père mourra, nous ne dirons pas ces paroles désespérantes. Nous ne te verrons plus, Henri. Nous nous reverrons dans une autre vie, où celui qui a beaucoup souffert ici-bas sera consolé, où celui qui a beaucoup aimé sur la terre retrouvera les âmes qu'il a aimées dans un monde sans pleurs et sans fin. Pour posséder ce bonheur infini, nous devons tous nous rendre dignes de cette autre vie. Écoute, enfant, chacune de tes bonnes actions, chacun de tes élans affectueux vers ceux que tu aimes, chacun de tes bons procédés à l'égard de tes camarades, chacune de tes pensées généreuses est comme un rapprochement vers l'autre monde. Chaque malheur, chaque peine te rapproche aussi de lui. Car chaque douleur est l'expiation d'une faute, chaque larme efface une tâche. Propose-toi tous les matins d'être meilleur que la veille et demande à Dieu d'être bon, noble, courageux, sincère, afin que le soir, ton père embrasse son fils plus sage qu'il ne l'était le matin. Pense toujours à cet Henri surhumain et heureux que tu pourras être après cette vie. Et prie, car tu ne peux pas t'imaginer la joie qu'éprouve une mère en voyant son enfant les mains jointes. Quand je te vois prier, il me semble impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui t'écoute et te regarde. Je crois alors plus fermement qu'il existe une bonté suprême et une piété infinie. Je t'aime davantage, je travaille avec plus d'ardeur, je souffre avec plus de force, je pardonne de toute mon âme et je pense à la mort avec plus de sérénité. Ô Dieu grand et bon, entendre après ma mort la voix de ma mère, retrouver mon enfant, revoir mon Henri béni et immortel, le serrer sur mon cœur dans un embrassement qui ne pourra jamais finir. Ô prie, mon enfant, prions tous, aimons-nous bien, soyons bons, et portons dans nos âmes cette céleste espérance, mon fils adoré. Ta mère.